Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Bonjour chers auditeurs, une nouvelle chronique du Pays Toulousain. Bonjour Aline.
Bonjour Sébastien.
Et nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Guillaume Debat. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors Guillaume Debat est maître de conférences en histoire moderne à l'Université Toulousain Jaurès. Et avec lui, nous allons inaugurer une longue série de chroniques autour du XVIIIe siècle. Et on va démarrer par la fin du XVIIIe avec Madame de Cassan.
Et avec une période noire qui n'a pas touché que Toulouse, qui a touché toutes les villes de France, y compris la capitale, qui est la période de la terreur. Alors, Madame de Cassan, est-ce que vous pouvez nous parler de Madame de Cassan ?
Oui, absolument. Alors, Madame de Cassan appartient à ce qu'on appelle la noblesse de robe, c'est-à-dire une noblesse qui est liée à l'exercice de fonctions dans la magistrature ou dans la finance, et souvent au service du roi. Donc, cette noblesse, souvent, on l'oppose à la noblesse d'épée ou la noblesse traditionnelle, même si en réalité, tout est plus nuancé. Alors, plus précisément, elle appartient à ce qu'on appelle la noblesse parlementaire, c'est-à-dire une noblesse qui détient des fonctions au sein des parlements. Et cette noblesse parlementaire, c'est un peu l'élite ou le sommet de la pyramide que constitue la noblesse de robe. À Toulouse, le Parlement, donc c'est une cour de justice d'appel qui dispose d'un fort pouvoir réglementaire. Donc il y a des parlements partout en France, mais à Toulouse, le Parlement domine la vie économique, sociale et culturelle au XVIIIe siècle.
Qui a été le deuxième Parlement de France.
Absolument, après celui de Paris. Cette noblesse parlementaire, elle constitue donc l'élite de la ville au XVIIIe siècle. Et Madame de Cassan est née dans ce milieu. Alors elle est née en 1744, elle est née Antoinette de Rabaudy. Elle n'appartient pas à la branche la plus prestigieuse de la famille Rabaudy. Son grand-père a été capitoul et sa famille détient une charge de viguier, c'est-à-dire des juges, mais moins prestigieux que les charges de parlementaires. Et c'est dans les années 1750 que cette branche des Rabaudy entre véritablement dans le monde parlementaire. D'abord, le frère d'Antoinette devient parlementaire et elle épouse Joseph-Henri de Cassan de Glatens, en 1787.
Donc on reste dans le milieu de la noblesse de robe.
Absolument, on reste dans ce milieu-là. Donc elle épouse Cassan de Glatens en 1756, qui lui appartient à une famille beaucoup plus prestigieuse qu'elle. Et le couple a trois enfants, deux garçons et une fille.
Et alors, pour quelles raisons ? Parce que Madame de Cassan va avoir, on le verra, un destin tragique. Est-ce que c'est le motif d'appartenir à cette classe de la noblesse, et là de la noblesse parlementaire, qui va être vraiment le déclencheur de ces malheurs ?
Absolument, parce que la Révolution française est globalement hostile au milieu parlementaire. Très tôt, le 6 septembre 1790, l'Assemblée supprime les parlements. Donc le coup est très dur à Toulouse, et là, les parlementaires toulousains vont réagir. Le 27 septembre 1790, ils protestent officiellement contre leur suppression, mais aussi contre toutes les réformes révolutionnaires. Et pour le dire clairement, et c'est très important pour la suite, ils apparaissent très tôt, ces parlementaires toulousains, comme des défenseurs acharnés de l'Ancien Régime, hostiles à la Révolution. Donc très tôt, ils sont suspectés d'être des ennemis de la Révolution. Les Jacobins les dénoncent, par exemple, comme des traîtres à la Révolution dès le mois d'octobre 90.
Donc on retrouve là quand même le ferment de l'opposition toulousaine, quand même, à l'ordre établi par d'autres que par eux, finalement.
C'est totalement ça. Et ensuite vont se succéder, comme ça, une couche de suspicion qui vont rendre Madame de Cassan de plus en plus suspecte. Et donc, il se trouve qu'au cours de la Révolution, on a une grande partie de la noblesse, alors que ce soit la noblesse d'épée ou la noblesse de robe, qui fuit et qui part en exil. On les appelle les émigrés. Et les émigrés sont très rapidement suspectés d'être des ennemis de la Révolution.
Ils partent dans quel pays ?
Alors, ils partent un peu partout, ça dépend de leur lieu de départ, mais à Toulouse, ils partent surtout en Espagne et au Portugal.
Ah oui.
Et c'est le cas des deux fils de Madame de Cassan.
Ah, voilà.
Donc, elle appartient à un groupe suspect, et doublement suspect, parce qu'elle est mère d'émigrés. Et c'est dans ce contexte qu'éclate, en 1793, la guerre avec l'Espagne et le Portugal.
Ah oui.
Et donc, la suspicion qui pesait sur ce groupe se renforce, parce qu'on pense que les familles d'émigrés, surtout ceux qui sont partis en Espagne, peuvent, depuis l'intérieur, depuis Toulouse, agir contre les armées de la Révolution.
Et, oui.
Et donc, à partir de là, la machine s'emballe et la législation à Paris donne plus de pouvoir répressif. Et ce qui fait que, dès le mois d'avril 1793, on a des arrestations en hausse à Toulouse. Au mois de septembre 1793, c'est la fameuse loi des suspects qui permet d'arrêter de manière préventive ceux qu'on suspecte d'être des ennemis de la Révolution. Et c'est dans ce contexte, en novembre 1793, que Madame de Cassan et sa fille sont à leur tour arrêtées.
Alors, elles sont arrêtées. Est-ce qu'il y a une police particulière? Est-ce qu'il y a... Il y a un tribunal qui va juger? Elles sont arrêtées pour être jugées?
Initialement, non. Elles sont arrêtées de manière préventive.
Voilà. Ah oui.
Elles sont arrêtées suite à la dénonciation de ce qu'on appelle le comité de surveillance. Ce sont 12 citoyens choisis pour leur patriotisme et qui doivent dresser la liste des suspects. Et en fait, elle n'est pas toute seule. Une grande partie des parlementaires, son mari aussi d'ailleurs, toutes les familles de parlementaires sont,
ah oui,
une grande partie
ça.
Sont arrêtées
donc,
à ce moment-là.
C'est une suspicion envers le milieu, finalement.
C'est ça. C'est une mesure préventive. La loi des suspects, c'est on ne criminalise pas une action. Elle n'a rien fait de mal, elle est suspecte.
Et donc, est-ce qu'elle est suspecte? Est-ce qu'elle va être mise à l'écart temporairement? Est-ce que vraiment elle va être enfermée? Est-ce qu'elle va être prisonnière?
Ah oui, elle est en détention.
Elle est en détention.
Dans le couvent initialement, enfin au début dans le couvent des chanoines de Saint-Cernin. Et c'est une détention. C'est une détention au pur et simple.
Oui. Est-ce qu'on lui demande, il y a un procès, je suppose?
Absolument, le procès s'ouvre plusieurs mois plus tard, le 1er mars 1794, le 11 Ventose en 2, en calendrier républicain. Donc elle est emprisonnée depuis octobre, en fait il y a un délai parce qu'il y a beaucoup de personnes à juger, et parce qu'à ce moment-là, le tribunal criminel a été transformé en tribunal révolutionnaire. Voilà, donc il a temporairement reçu la possibilité de juger comme le tribunal révolutionnaire à Paris. Alors qu'est-ce qu'on lui reproche? Eh bien en fait on lui reproche une correspondance avec son fils, donc il y a un de ses fils qui a émigré en Espagne.
Donc on va imaginer ce qui est à charge contre elle. Le tribunal va lui opposer un certain nombre de... Enfin, les raisons pour lesquelles elle est là devant eux.
Absolument. Et il y a des preuves contre elle, notamment une correspondance. En fait, une lettre qu'elle aurait écrite à son fils, dans laquelle elle fait deux choses. La première, c'est qu'elle lui aurait envoyé de l'argent. Et la deuxième, c'est qu'elle fait état de position contre-révolutionnaire. Elle traite la France de nation criminelle parce qu'elle aurait guillotiné Louis XVI.
Ah oui, oui.
Or, il y a un petit détail, c'est que cette lettre n'est pas signée.
Ah.
Madame de Cassan se défend d'être l'autrice de ce document. Alors que font les juges? Ils vont, suite à une saisie à son domicile, ils vont comparer son écriture dans un document qui est identifié comme le sien avec un document, avec la lettre suspecte. Et la correspondance des écritures montre qu'elle est bien, en tout cas aux yeux des juges,
oui,
qu'elle est coupable.
Oui.
Et c'est pour ce motif-là...
Le rapprochement est pertinent.
Oui, les preuves ont été conservées en archives encore?
Oui, on en a une partie aux archives départementales. Il y a une cote avec son procès.
D'accord.
Et donc, elle est reconnue coupable. Alors, j'ai gardé la citation. Elle est reconnue coupable d'avoir méchamment et à dessein entretenu des intelligences criminelles avec des ennemis extérieurs. Et donc, c'est deux faits. Hein, avoir envoyé de l'argent.
Oui, d'autant qu'il était en Espagne.
Exactement. Voilà. Et ces deux faits lui valent d'être exécuté le lendemain, le 2 mars 1794, sur la place de la Révolution, qui est à peu près sur l'actuelle place Wilson, à Toulouse.
Ah oui, oui, oui. Est-ce que les exécutions se sont toujours déroulées à cet endroit?
Alors, pendant la Révolution, non. Les exécutions se sont déroulées d'abord sur la place de la Liberté. En fait, c'est la place du Capitole.
Oui.
Parce que pendant la Révolution, on renomme les rues et les places. Et suite à une exécution ratée, la guillotine est déplacée, place de la Révolution, qui était donc près d'une porte, la porte Villeneuve et la place Wilson actuelle.
Et question, je reviens sur le procès, il y a des preuves écrites évidemment qui permettent de fonder le soupçon du tribunal, mais est-ce qu'il y a des témoignages oraux qui sont recueillis et qui accusent même de Cassan de justement cette hostilité à la Révolution, cette complicité avec des gens qui sont à l'étranger, etc.?
Non, le vraiment les pièces maîtresses du procès, ce sont ces documents.
D'accord.
Voilà,
ce sont ces documents et l'appartenance à une caste qui a un milieu. Voilà,
alors disons que l'appartenance...
Qui est considérée comme... anti-révolutionnaire.
Absolument. L'appartenance justifie la suspicion et les preuves justifient la culpabilité aux yeux du tribunal.
Donc, oui, comme tout tribunal révolutionnaire, effectivement, on part d'un a priori et on va essayer de construire le procès à partir de là.
Oui, absolument. Dans les... dans les années qui suivent, des historiens royalistes qui écrivent sur la période ont tendance à oublier finalement les preuves écrites. C'est-à-dire que des historiens, surtout au XIXe siècle à Toulouse, vont faire de Madame de Cassan une martyre de la Révolution. Elle est vraiment décrite sur le mode du martyr, hein, le mot est employé plusieurs fois, et on va oublier ses positions ouvertement contre-révolutionnaires, hostiles à la Révolution, et on va garder que l'idée d'une personne condamnée pour avoir été une bonne mère, en fait. Donc il y a un peu une réécriture pour nier l'aspect politique du verdict, finalement, et ne garder que l'aspect une femme persécutée pour avoir été une mère.
Et alors, justement, bon, on arrive à la fin, c'est-à-dire qu'elle va être malheureusement guillotinée. Et comment est-ce qu'on a des détails sur cet événement? Est-ce que quelque chose dans cet événement aussi a fait qu'elle va acquérir un statut de martyr?
Alors, rien si ce n'est d'être la seule femme guillotinée par le tribunal révolutionnaire à Toulouse. Et donc, quand les historiens royalistes au XIXe siècle font l'histoire de la Révolution, bah, de suite, ils sont très intéressés par cette figure-là.
Voilà. Ah, oui,
mais
oui.
Elle passe assez vite à l'oubli. Hein. On l'oublie assez vite pour se concentrer surtout sur la mémoire des parlementaires exécutés. C'est vraiment mémoire qui écrase la mémoire de la Révolution et des victimes de la Révolution à Toulouse.
Est-ce qu'on peut avoir un portrait d'elle quelque part?
Alors, il y en a peut-être, mais moi, je n'en ai pas trouvé. J'en ai cherché, mais à ma connaissance, je n'en ai pas trouvé.
D'accord.
Donc, elle a affronté la guillotine avec courage. Il y avait, je suppose, comme d'habitude, un public intéressé. Elle a été grande.
Alors, on ne le sait pas parce qu'on n'a pas de récit d'exécution à Toulouse. On n'en a que le récit qu'en font ces historiens royalistes du XIXe siècle, mais qui, évidemment, eux, insistent.
Vont enjoliver la chose.
C'est ça. On n'a pas de récit de son exécution ni d'autres exécutions à Toulouse.
Eh bien, merci Monsieur Guillaume Debat. Vous pouvez retrouver l'ouvrage de Monsieur Debat publié aux éditions Midi-Pyrénéennes, 1794, Terreur, Justice révolutionnaire et Guillotine, Madame de Cassan. Merci beaucoup. On se retrouve pour une autre chronique la
merci
semaine
beaucoup.
Prochaine.
Merci.